Chapitre 20e, Ilmarian, Guham, détails, mœurs, histoire. Guham a 40 lieues de tour. Le côté nord, presque désert, est formé de calcaire madréporique et les falaises qui bordent la mer sont abruptes et élevées. Au milieu de ce massif, dans un lieu nommé Sainte-Rose, a pointé depuis 2 ans un petit piton volcanique dont les ravages se font déjà sentir dans les environs. Des protubérances madréporiques entourent presque toute l'île, plutôt défendue par son inutilité que par la nature et les citadelles élevées à grands frais par les Espagnols. Le côté sud de l'île offre un spectacle bien singulier. Ce sont d'abord des cônes élevés avec des bouches encore béantes, d'où s'exhale parfois une odeur sulfureuse et des jets de flammes colorées de bleu et de rouge. Ce sont aussi, sur le penchant de ces cônes rapides, des basaltes, des couches bizarres de lave vomies par les fréquentes éruptions, tellement et si régulièrement superposés, qu'il est aisé de compter par les profils les colères des feux souterrains. Mais dès que vous vous approchez du rivage, le sol perd de son âpreté et se dessine en ondulations déprogressives jusque sur les flots où elles s'éteignent presque imperceptibles. Le matelot petit, qui rapporte tout à la marine et dont le langage pittoresque trouve si instinctivement le mot de la chose, selon son expression favorite quand il veut faire le savant, me dit « Savez-vous bien, monsieur Arago, que le raz-de-marée a passé par ici? Comment l'entends-tu? C'est facile. Voyez comme la terre clapote. Il y a de l'eau là-dessous. Ce que tu appelles de l'eau, c'est du feu. Qu'importe s'il est fait le même. Je vous jure qu'il y a sous nos pieds quelque chose qui boue. Et puis quand ça aura bouilli, le couvercle sautera et nous gigoterons comme de bons enfants. C'est possible. Tenez, creusez avec votre sabre. Je suis sûr que vous trouverez une source de feu. Nous essayâmes l'opération, mais la croûte était trop dure. Nous épuisâmes vainement nos forces. Au surplus, ces flammes souterraines, ces secousses violentes et si souvent répétées, ces fatigues perpétuelles d'une terre en travail, n'ont pu encore étouffer cette puissance de la végétation qui, par l'île, d'un immense bouquet de verdure et quelques parties même de l'intérieur rappellent, sans trop de désavantages, le chaos impénétrable des forêts brésiliennes. Ici seulement, point de reptiles qui bruissent et sifflent sous les arbustes et les feuilles mortes, point de monstrueux lézards qui vous fatiguent de leurs cris, point de rauquements lugubres des jaguars. Tout est calme à la surface de Guham, quand tout est turbulence dans ses entrailles. On dirait que les fureurs intérieures ont pris à tâche de ne pas troubler la quiétude des êtres vivants qui respirent un air pur et limpide. Peut-être, hélas, le jour de la destruction n'est-il pas éloigné? Et les volcans se feront-ils les terribles auxiliaires de la lèpre, à nous le sol, à toi les hommes? Les bois et les montagnes de Guham offrent aux naturalistes des objets dignes de sa curiosité et de ses réflexions. Une grande quantité d'oiseaux, riches de 1000 couleurs, voltigent de branche en branche et ne cherchent que rarement à éviter l'atteinte des chasseurs. Le plus joli, sans contredit, est la tourterelle à calotte purpurine, dont les couleurs sont d'une douceur étonnante et la forme infiniment gracieuse. Les martins pêcheurs viennent après, il y en a de magnifiques. Mais les oiseaux de cette partie du globe, brillants de plumage, ont un chant monotone ou un cri fort désagréable. La mer est plus riche encore que la terre. On y trouve des poissons de toute espèce et bariolés de 1000 couleurs. La collection de nos docteurs était précieuse et ils auraient apporté bien des espèces inconnues en Europe si le triste naufrage que nous fîmes au Malouin ne les avait engloutis. On fait ici aux habitants de la mer une guerre opiniâtre à l'aide d'un petit poisson dont j'ai oublié le nom et qu'on garde dans un réservoir où il est nourri avec le plus grand soin. Dès qu'il est jugé assez instruit dans le métier qu'on lui apprend, on le lâche et le pêcheur, en frappant de grands coups sur son bateau, le fait revenir avec tous les autres poissons que son élève a l'adresse d'attirer dans ses filets. On compte 35 rivières dans toute l'île, dont quelques-unes roulent des paillettes de fer et de cuivre. Les principales sont Tarofofo, Higue et Pago. Elles se jettent toutes trois dans la mer, et la première peut être remontée avec un petit navire à une assez grande hauteur. Quoique le pays soit très montagneux, elle coule fort lentement, et celle d'Agania, par exemple, ne file pas un tiers de lieue par heure. Elles sont médiocrement poissonneuses. Le cocotier, que je ne crains pas d'appeler le souverain des arbres, quand je considère la richesse de son feuillage, et que je nomme le plus précieux, lorsque je songe à son utilité, s'élance de terre par une tige de 2 pieds de diamètre qui s'élève majestueusement jusqu'à 100 pieds de hauteur et promet dans les airs sa chevelure verdoyante. Ses feuilles, formées d'une arête large et flexible que bordent de longues folioles opposées obéit souvent le plus léger et qu'annonce avec grâce, il s'entrelace mollement, se déploie avec majesté et retombe sans être affaissé. Plus l'arbre est jeune, plus elles sont larges et vigoureuses, plus il vieillit, plus elles deviennent rares et faibles. On dirait qu'elles font sa vigueur, comme les cheveux de Samson faisaient sa force. Dépouillée de cet ornement, sa tige grisâtre semble succomber sous le poids énorme des fruits qui la dominent et qui y sont attachés en grappe. Ces fruits ne sont qu'une partie de sa richesse. Aussi gros que nos melons, ils renferment dans leur double enveloppe une eau plus limpide que celle qui tombe des belles cascades des Pyrénées. Elle est douce et bienfaisante, mais l'excès en est nuisible, ainsi que celui de la crème délicieuse qu'elle dépose sur les parois de la première coquille. Pour arriver jusqu'au sommet de l'arbre, les noirs, les sauvages, les habitants des Mariannes se servent à peu près des mêmes moyens. Ils font de petites entailles à son tronc, ou plus souvent encore, avec l'arête même des feuilles qui lient entre elles perpendiculairement au sol, ils dressent une sorte d'échelle capable de supporter les plus lourds fardeaux. Du reste, ce n'est que pour les enfants qu'on fait usage de ces moyens, car dès qu'ils ont acquis la force de la jeunesse, les naturels escaladent les arbres les plus roides avec une agilité merveilleuse, et j'en ai vu qui se jouaient en riant des difficultés et qui les cherchaient pour nous montrer leur adresse. Sans compter la nourriture agréable et naturelle qu'on retire de ces fruits, jetez un coup d'œil sur le tableau suivant et jugez vous-même si cet arbre n'est pas un bienfait pour les insulaires de la mer du Sud, et en particulier pour les habitants de cet archipel isolé. Du fruit ou de la liqueur qui découle des branches tronquées à dessin, on obtient des confitures excellentes, de l'eau-de-vie délicieuse, du vinaigre, du miel, de l'huile. De l'enveloppe, des vases, de petits meubles. De la tige et des feuilles, des cordages très forts, des habillements, du fil, des toitures. Ajoutez encore à ce tableau incomplet une foule de petits ouvrages charmants, tels que paniers, nattes, haies solides, cloisons impénétrables, et vous jugerez quel prix on doit attacher ici à la possession du cocotier. Aussi lui seul est-il la plus grande richesse du pays. Si je m'étais sérieusement occupé de botanique, je vous parlerais de cet arbre du voyageur, Urania speciosa, dont le nom indique un bienfait, de ce rimaou arbre à pain, Artocarpus incisa, presque aussi nécessaire que le cocotier, mais beaucoup moins répandu. De ce latanier qui ressemble si bien à un vase élégant d'où s'échappent, comme des rayons, des feuilles d'un vert magnifique. De l'arequier, Areca oleracea. Du vaqua, Pandamus. Et de cet énorme multipliant, Ficus religiosa, qui à lui seul forme une forêt. Mais mon livre est un itinéraire. La route est longue encore, et je ne veux point arrêter mes lecteurs à chaque pas. Il n'y a pas d'extravagance et de sottise que n'aient écrites les historiens espagnols qui, les premiers, ont fait connaître à l'Europe les Mariannes et leurs habitants. Ils ont prétendu que ceux-ci ne marchaient qu'à reculons, que la plupart se tenaient courbés comme des quadrupèdes, sans que pourtant les bras touchent à sa terre. Ils ont ajouté que le feu était resté pendant des siècles ignoré de tout l'archipel. La nature et la structure de l'homme donnent un démenti aux premières assertions, et quant à la dernière, les orages qui pèsent en certaines saisons sur les climats équatoriaux, et plus encore les volcans, dont presque toutes les îles Mariannes sont couronnées, disent ce qu'elle a d'absurde et de fabuleux. Mais ce qui paraît avéré, ce qui semble victorieusement démontré, quoique les historiens de la conquête l'aient dit avant nous, c'est que les femmes d'alors avaient dans toutes les occasions la prééminence sur les hommes, qu'ils présidaient à toutes les délibérations publiques et que le code de tous avait été créé par elles seules. La domination espagnole, en écrasant de tout son despotisme cet archipel si brillant et si varié, n'a pas eu la force de renverser cet usage incrusté, pour ainsi dire, dans les mœurs primitives. La femme, même actuellement, ne prend jamais le nom du mari. On la sert la première à table, non par galanterie, mais par devoir, par déférence, par respect. C'est à elle que l'on offre, au lever, le premier cigare qui se fume dans la maison et qui mange la première galette sortant de l'ardoise sur laquelle elle a été dorée. À Guam et à Rota, les discussions d'homme à homme sont toujours tranchées par les femmes. Celles entre femmes ne le sont jamais par les hommes. À la mort d'un homme, le deuil est de 2 mois. À la mort d'une femme, il est de 6. La perte est 3 fois plus grande. Lorsqu'une femme prend un mari dont la fortune est moindre que la sienne, c'est celui-ci qui, dans le ménage, est tenu de travailler pour la femme et d'accepter les corvées les plus pénibles. Lorsque la dot des 2 époux est à peu près égale, ou même lorsque la femme ne possède rien, les travaux sont partagés. Seulement les 2 parts, une fois arrêtées, la femme choisit d'abord sans que le mari puisse se plaindre. Si le frère ou le père d'une jeune fille sauve d'un danger imminent un individu quelconque dont la fortune est considérable, celui-ci, s'il ne déplaît pas, est tenu d'épouser la sœur ou la fille de son libérateur. À la vérité, en s'étayant du code espagnol, mis en vigueur depuis la conquête de l'archipel, on peut s'affranchir de ce tribut forcé. Mais telle est la ferveur des naturels pour leurs antiques coutumes, qu'il n'y a pas d'exemple à Guam d'une opposition sérieuse formée par celui qui a reçu le bienfait. Dans ce cas même de mariage, l'époux n'a pas le droit d'exiger une dot de sa femme. Les parents et les amis se donnent rendez-vous au chevet d'un mort et après quelques rapides prières, on cherche à oublier le malheur dans les libations copieuses d'une liqueur enivrante nommée Touba, qui ne tarde pas à assimiler les vivants défunts, une orgie pour calmer une douleur. Les détails se pressent en foule dans ma mémoire, et si je ne les transcris point tous ici, c'est que d'autres archipels ont droit à l'empressement du visiteur. Toutefois, avant de dire un dernier adieu aux Marianne, il ne sera peut-être pas inutile de rappeler en peu de mots l'histoire de leur découverte et de leur conquête sur les Chamors. Une des époques les plus fécondes en grand courage est sans contredit celle qui suivit de près l'heureuse entreprise de Colomb. À son école se formèrent une foule de nobles aventuriers, insatiables de périls et de gloire, avides de merveilleux, qui de tous les points de l'Europe s'élançaient pour parcourir et étudier le monde agrandi, et nous nous hâtons de dire que le Portugal surtout inscrivit des noms illustres dans les plus belles pages de l'histoire des nations. Chassé pour ainsi dire de Lisbonne, sa patrie où on n'avait pas voulu accepter ses services, Magellan, à l'exemple de Colomb, alla offrir le secours de son expérience à l'Espagne, qui lui confia un beau navire pour tenter des découvertes vers l'ouest, puisque le cap de Bonne-Espérance avait été doublé et que chaque jour, les vaisseaux explorateurs arrivaient en Europe après avoir franchi la science nautique de quelques petites îles, de quelques rochers ou d'une grande terre. Magellan traversa l'Atlantique, longea la côte orientale du Brésil, le Paraguay et la terre des Patagons. Il aurait peut-être doublé le cap Horn lorsqu'une tempête horrible le jeta dans le fameux détroit qui porte son nom. J'ai déjà dit sa joie à l'aspect du vaste océan Pacifique qui déployait devant lui sa majesté imposante et la masse effrayante de ses vagues se brisant sur les côtes occidentales du Nouveau Monde. Hardi comme tous les capitaines de ces temps de merveille, mais plus patient que la plupart d'entre eux, le Portugais s'élança audacieusement vers l'ouest, découvrit les Mariannes, qu'il appela les îles des Larrons, Ladrones, et toucha aux Philippines où il périt victime de son courage. Les Carolines et les Mariannes avaient été découvertes. Ces îles si fertiles étaient peuplées d'hommes assez industrieux, dont le caractère avait paru bon et confiant. Mani commençait à devenir une colonie florissante, et c'est de là que partirent les navires qui résolurent la conquête de cet archipel. Joseph de Quiroga fut le premier des Espagnols qui chercha à les soumettre. Il était vif, bouillant, impétueux. Il ne connaissait aucun de ces sentiments de générosité qui, plus que les armes, gagnent les esprits et soumettent les cœurs. Aussi dur envers lui-même qu'avec ses soldats, il s'exposait aux mêmes dangers, bravait les mêmes souffrances. Il punissait par sa défaveur une action timide et réprimait les murmures par de cruels châtiments. Plusieurs fois, il eut apaisé des révoltes, et partout sa présence d'esprit et son impétueux courage lui valurent de grands succès. La résistance des naturels était un outrage pour son âme altière. Le carnage qu'il en faisait lui ouvrit toutes les routes, et ne pouvant supporter le joug qu'on voulait lui imposer, le peuple vaincu, mais non soumis, se retira sur un rocher désert, à Guigan, où il crut se soustraire à la persécution et à la tyrannie. On le poursuivit bientôt dans ce dernier asile, et ceux qui échappèrent au massacre furent conduits à Guam et traités en esclaves. Au milieu de ces scènes de ravages et de désolation, il est doux d'arrêter ses regards sur un spectacle qui en diminue l'horreur. Le nom du père de San Victores doit être aussi cher aux habitants de cet archipel que l'a été celui de Las Casas parmi les hordes des sauvages de l'Amérique. Lui seul osait mettre un frein aux cruautés de Quiroga, et tel était l'esprit des conquérants du XVe siècle, que ce qu'ils auraient regardé comme témérité impardonnable dans un soldat, ils craignaient de le réprimer dans un ministre de notre religion. Au moment même où la torche de la discorde brillait d'une clarté funeste dans toutes les parties de Guam, le père San Victores, hardi comme tous les martyrs de la foi, parcourait les campagnes sous la seule sauvegarde de l'étendard du Christ, et avec des paroles de paix et de douceur, il gagnait les cœurs des habitants et diminuait ainsi leur haine pour le nom espagnol. c'était du sein des retraites encore non violées qu'il lançait les ordres sévères respectés par le fougueux Quiroga. Mais hélas, le zèle du pieux missionnaire ne tint pas longtemps contre l'ignorance des naturels et la barbarie des vainqueurs. Un de ces hommes extraordinaires que chaque terre produit pour guider les autres, intrépide par instinct, féroce par calcul, et aussi étranger au malheur passé qu'insensible à ce avenir, un de ces hommes, en un mot, dont l'existence ne va jamais au-delà du présent, avait opposé aux Mariannes quelques résistances aux armes espagnoles et confiné dans l'intérieur de l'île, avec un nombre assez considérable de partisans, il murmurait contre les éloges que des fugitifs donnaient à San Victores et ne voyait qu'une perfidie de plus dans la conduite et les prédications pieuses du héros catholique. Cet homme dangereux se nommait Matapang. Je vous en ai déjà parlé à l'occasion d'un prétendu miracle dont j'ai déjà certifié l'authenticité. Il avait confié ses deux enfants à son épouse et celle-ci, touchée des vertus et de la modération de San Victores, les lui avait donnés pour en faire des chrétiens. Il n'en fallut pas davantage à Matapang pour exécuter l'atroce projet qu'il méditait depuis longtemps. Chez les hommes aussi peu maîtres de leur premier mouvement, l'intérêt personnel l'emporte toujours sur le bien général. Matapang rassembla ses camarades, leur parla avec le feu d'une indignation véhémente, réveilla dans leur âme le sentiment de la vengeance et leur fit adroitement comprendre que de la mort seule du père San Victores dépendait désormais le salut du pays et la fuite des Espagnols. Son discours ranima le courage des plus timides, chacun résolu de tendre un piège aux zélés missionnaires et de le faire périr dans une de ces courses chrétiennes qu'il répétait peut-être avec un peu trop d'imprudence. L'occasion ne manqua pas de se présenter. Matapang sut l'attirer de la retraite qu'il s'était choisie. Il le remercia d'abord des soins qu'il avait donnés à ses enfants et le supplia de vouloir bien les conserver pour tout ce qui lui était cher. Mais afin de mettre sa charité à l'épreuve, il le pria de donner le baptême à une chèvre qu'il affectionnait beaucoup. On juge de la réponse du ministre de Dieu, et comme il s'obstina à refuser ce qu'on exigeait, Matapang, aidé de deux de ses partisans, se précipita sur lui et le terrassa avec une espèce de hache de bois qui était avec la fronde la seule arme des premiers habitants des Mariannes. On ne sait point si Quiroga fut fâché de ce crime, mais il est certain que la vengeance devint le prétexte, sinon le motif des horreurs commises par ses soldats. L'imagination se révolte au souvenir de tant de scènes de carnage. Il suffit, pour donner une idée, de dire qu'aux premiers essais des armes espagnoles, les Mariannes comptaient plus de 40 000 habitants et qu'après 2 ans, on n'en trouva que 5 000. C'est de cette époque que date le premier établissement. On soumit les naturels à des lois très dures auxquelles ils n'avaient pas le pouvoir d'échapper. Ils plièrent sous le despotisme de leurs oppresseurs et cette haine, qui naît du sentiment de la faiblesse contre la tyrannie, est restée vivace en dépit des années et des nouvelles lois moins dures et moins cruelles. Magellan, je vous l'ai déjà dit, donna aux îles Mariannes le nom de ladrone, ladronesse, parce qu'il y fut victime de sa bonne foi. Il n'y aurait pas d'injustice à leur conserver de nos jours cette triste dénomination dont les habitants affectionnent la douce habitude de s'approprier le bien d'autrui. Sitôt que le pouvoir des Espagnols y fut établi sur des bases, il est vrai assez chancelantes, le premier soin des vainqueurs dut être d'y maintenir leur esprit et de faire sentir leur supériorité. Quiroga était de retour à Manille. Le père San Victores avait péri victime de son courage apostolique et celui qui avait succédé au chef de l'expédition ne s'occupait que des recherches qui pouvaient donner à sa patrie une haute idée du pays qui lui était soumis et des soins, moins généreux, d'agrandir promptement sa fortune. Il avait expédié des demandes au gouverneur général des Philippines, car il craignait que Quiroga n'eût fait voile pour l'Espagne. Mais le hasard le servit plus promptement qu'il n'avait osé l'espérer. Les Carolines attiraient les regards de la cour de Madrid, en même temps que celle-ci s'occupait de la conquête des Mariannes. 9 petits navires, partis de Luçon, y transportaient plusieurs missionnaires, que leur zèle pour la religion éloignait d'un séjour de tranquillité et d'aisance. Les vents leur furent d'abord contraires, et un orage épouvantable, les ayant éloignés de leur route, 8 de ces navires vinrent périr sur la côte de Guam, tandis que le 9e fut assez heureux pour entrer dans une anse où il se mit à l'abri de la tempête. Le seul moine qui se sauva resta quelques années aux Mariannes et y prêcha avec tout le zèle et le succès de San Victores, mais avec plus de bonheur. Une chose remarquable, c'est qu'on vit bientôt les plus considérés des anciens habitants protéger avec opiniâtreté la religion de leurs oppresseurs et prétendre interdire au bas peuple le droit qu'ils voulaient avoir seuls de jouir des biens à venir qu'on promettait.